Bonsoir, bienvenue dans cette édition de 17h30, temps universel du mercredi 27 mars 2019. Abdourahmane Diaye et John Lyndon à la présentation, voici les titres.
On démarre par Charles Blé Goudé, qui a récemment été acquitté par la CPI. Il appelle les Ivoiriens à oublier la vengeance ou la revanche au nom de la réconciliation.
Nouvelle attaque meurtrière de Boko Haram dans la région de Diffa, dans le sud-est du Niger. Bilan, 10 morts et 8 blessés.
Au Burundi, 3 jeunes mineurs sont sortis de prison et sont accusés d'avoir gribouillé une photo du président Pierre Nkurunziza.
Après le passage dévastateur du cyclone Idai en Afrique australe, le choléra fait son apparition au Mozambique.
L'ex-premier ministre algérien Ahmed Ouyahia réclame à son tour la démission du président Bouteflika.
Et puis dans la partie magazine, le premier ministre malien Soumaïlou Boubé Maïga, en visite à Washington, s'exprime sur les violences dans le centre du Mali.
Nous pensions que c'était uniquement l'apanage de plus barbares. C'est une barbarie inqualifiable. Il appartiendra aux enquêtes de dire qui est responsable.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal.
Au Niger, au moins 10 civils ont été tués, 7 blessés hier soir dans un attentat suicide et une attaque djihadiste en Guimni, dans la région de Diffa. Les détails avec Nathalie Barge.
Une des kamikazes s'est faite exploser à l'intérieur du camp de la gendarmerie et la deuxième entre la mairie et la préfecture, a indiqué le maire de la localité, Abba Kaya Issa, ajoutant que des hommes armés ont mené une attaque dans le quartier d'Ilram. Selon des habitants, des maisons ont été incendiées et des femmes et enfants touchés par les éclats ont été évacués à l'hôpital. Samedi dernier, une série d'attaques a fait 14 morts dans 4 villages et 2 femmes ont été enlevées à Guesquerou. Jeudi dernier, les islamistes ont tué 8 personnes à Karidi et depuis le 16 février, 14 soldats ont été tués dans cette région frontalière du Nigeria. L'armée assure avoir tué 33 terroristes le 12 mars lors d'une vaste opération de ratissage et elle a affirmé fin 2018 en avoir tué plus de 200 lors d'une offensive d'envergure dans le bassin du lac Tchad.
Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, acquitté en première instance par la CPI, mais toujours en liberté conditionnelle, a appelé les Ivoiriens à oublier toute vengeance ou revanche après la crise électorale de 2010-2011, au cours de laquelle 3000 personnes sont mortes. Et Kabalou.
Je n'encouragerai aucune tentation de violence ni velléité de revanche. Vengeance sur vengeance, revanche sur revanche ne feront que précipiter notre pays dans l'abîme, le chaos, bref dans un déclin irréversible, a écrit Charles Blé Goudé dans une lettre aux Ivoiriens. Savoir reconnaître ses erreurs, assumer ses responsabilités, quelles qu'elles soient, voilà la vraie voie vers la rédemption, affirme Monsieur Blé Goudé, qui a souvent été critiqué pour la virulence de ses propos. L'ancien président Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé ont été libérés sous caution dans l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. M. Gbagbo réside pour le moment à Bruxelles et M. Blé Goudé est toujours aux Pays-Bas car aucun pays n'a accepté de l'accueillir.
Et puis l'ancien premier ministre centrafricain Simplice Mathieu Sarandi, dont les groupes armés avaient réclamé et obtenu la démission, a été nommé ministre d'État conseiller spécial à la présidence. Monsieur Sarandi a présenté sa démission et celle de son gouvernement le 22 février, conformément aux négociations de l'accord de paix mené à Khartoum et signé à Bangui entre autorités et groupes armés.
Au Cameroun, le principal opposant Maurice Kamto, président du MRC incarcéré depuis 2 mois à Yaoundé, dénonce depuis sa prison une exclusion lâche de l'opposition des élections régionales qui doivent avoir lieu cette année dans le pays. Le gouvernement camerounais a enclenché une procédure visant à modifier le code électoral et à définir les conditions de l'élection des conseils régionaux qui devraient se tenir en 2019. Il s'agit, estime Maurice Kamto, d'un processus exclusif et lâche, et lâche plutôt, visant notamment à éliminer le concurrent politique le plus sérieux du RDPC, le parti au pouvoir, parmi lesquels le MRC.
Les présidents congolais et rwandais sont d'accord pour oublier le passé et travailler ensemble à mettre fin à la violence le long de leurs frontières communes. Nos pays resteront voisins pour toute la vie, se faire la guerre, entretenir des tensions inutiles, c'est une perte de temps. Une perte de temps que nous aurions pu mettre à profit pour bâtir, pour reconstruire, a ainsi déclaré Félix Tshisekedi à l'occasion de l'Africa CEO Forum à Kigali. Le président congolais s'y exprimait devant un panel avec Paul Kagame, qui, de son côté, a déclaré qu'il souhaitait travailler à améliorer les relations bilatérales avec la RDC.
Et puis Félix Tshisekedi est attendu ici aux États-Unis du 3 au 5 avril. Le porte-parole du département d'État, Robert Paladino, a indiqué hier que Tshisekedi rencontrerait le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Il a également déclaré que Washington partageait l'intérêt du président Tshisekedi d'établir un partenariat solide entre les États-Unis et la RDC.
Fin heureuse au Burundi. Les trois jeunes filles âgées de 14, 15 et 17 ans sont sorties de la prison pour mineurs à Ngozi, au nord du pays. Les parents saluent le geste de la ministre burundaise de la Justice, mais demandent que ces élèves retournent à l'école. Leur détention pour avoir gribouillé la photo du président burundais avait provoqué un tollé national et international. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza. On reviendra certainement sur cet élément et on poursuit avec vous le Mozambique, Abdou.
Effectivement, le Mozambique a confirmé l'apparition du choléra dans la région de Beira, dévastée par le passage du cyclone Idai qui a fait près de 500 morts et des centaines de milliers de sans-abri. Le point avec Yakuba Wetrogo.
Nous avons 5 cas de choléra confirmés à Beira et ses environs, a déclaré Youssen Issé, directeur national de la santé. Il a averti qu'il y en aura plus parce que le choléra est une épidémie. Selon M. Issé, 1 million de doses de vaccins vont arriver ce week-end dans la région. Dès dimanche, le ministre de l'Environnement, Celso Correa, avait prévenu qu'une épidémie était inévitable compte tenu des eaux stagnantes et de la promiscuité dans les centres d'hébergement où s'entassent les rescapés. Le cyclone Idai a touché Beira puis a poursuivi sa route vers le Zimbabwe voisin. Maputo a recensé au moins 468 morts sur son sol. L'Organisation internationale pour les migrations a fait état de 259 morts au Zimbabwe. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, Mark Lowcock, a estimé à au moins 250 millions d'euros le montant de l'aide nécessaire au Mozambique pour les 3 prochains mois.
Le pape François est attendu samedi au Maroc, invité par le roi Mohamed VI pour l'archevêque de Rabat. Cette visite est une occasion unique de montrer que le Maroc valorise plus ce qui unit que ce qui divise. Le Maroc compte 30 000 à 35 000 catholiques. Le Vatican a par ailleurs annoncé ce mercredi que le pape François effectuera début septembre un voyage de 6 jours au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le patron par intérim de l'Agence fédérale américaine de l'aviation est ce mercredi devant le Congrès pour justifier ses relations avec Boeing. Dan Elwell tente d'expliquer pourquoi la FAA a tardé à clouer au sol la flotte des Boeing Max après la tragédie d'Ethiopian Airlines le 10 mars qui a fait 157 victimes. Boeing a de son côté lancé une offensive de charme pour convaincre le public que la version corrigée du système anti-décrochage mise en cause dans 2 accidents de ce type d'appareil est désormais opérationnelle.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit discuter cet après-midi du Golan lors d'une session d'urgence à la demande de la Syrie. Damas exige la restitution de ses territoires annexés par Israël et que Donald Trump considère depuis lundi comme faisant partie d'Israël.
Le président français Emmanuel Macron reçoit vendredi à l'Élysée le roi Abdallah II de Jordanie pour évoquer les conflits syriens et israélo-palestiniens. La France a une base aérienne en Jordanie pour mener des raids contre le groupe État islamique en Syrie. Les forces démocratiques syriennes ont déclaré samedi la fin du califat autoproclamé en Irak et en Syrie.
Et puis, les députés britanniques votent ce soir sur les différentes formes que pourrait prendre le Brexit. L'objectif est de dégager une alternative au traité de retrait négocié par la première ministre Theresa May avec Bruxelles et qu'ils ont rejeté deux fois. Theresa May s'est engagée à sortir le Royaume-Uni de l'union douanière et du marché unique européen.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
Relance hier des travaux de construction du barrage de Kandadi sur le fleuve Niger à 180 km de Niamey. Ce barrage devrait permettre d'irriguer 45 000 hectares de terres agricoles. Kandadi sera doté d'une centrale d'une puissance de 130 MW pour aider à résoudre le problème d'électricité récurrent dans le pays. Estimé à 740 milliards de francs CFA, ce barrage sera réalisé par une entreprise chinoise dans un délai de 58 mois. Les profits d'EcoBank Côte d'Ivoire l'an dernier s'élèvent à 20,7 milliards de francs CFA, soit un recul de 22% par rapport à 2017. Cette entreprise avait habitué les investisseurs à une croissance continue depuis 13 ans. Les causes de ce repli n'ont pas été révélées. Mais Financial Africa écrit que la faillite de SAF Cacao pourrait être en grande partie responsable de cette contre-performance. EcoBank y a perdu 15,5 milliards de francs CFA. Pour terminer, les exportations de café ougandais ont chuté de 17% en février à cause de l'insuffisance des pluies dans certaines régions productrices, selon l'organisme de réglementation du café en Ouganda. Le mois dernier, les exportations de café ont totalisé 323 828 sacs de 60 contre 390 677 sacs le même mois l'année dernière.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
L'équipe nationale de football du Gabon a été dissoute.
Oui, l'annonce a été faite ce soir par le ministre des Sports gabonais qui a aussi demandé à la Fédération gabonaise de football de virer l'entraîneur Daniel Cousin et son staff. Écoutons Alain-Claude Billy Binzé.
Nous en avons pensé qu'il fallait aujourd'hui même confier à la FEGAFOOT la mission de mettre un terme au contrat du sélectionneur actuel et préparer un appel à candidature ouvert aux techniciens gabonais et étrangers. Le nouveau sélectionneur national devra être connu dans les 60 jours maximum. Deuxièmement, mettre en place une véritable direction technique nationale qui aura pour mission de poser les bases d'une réorganisation du football dans tous ses segments. Aussi, l'équipe nationale des Panthères A, dans sa formation actuelle, est dissoute. Nous allons rebâtir l'équipe nationale sur de nouvelles bases en mettant de côté tous ceux qui se sont caractérisés par un manque d'envie, un manque de patriotisme et qui ont plus mis en avant les ressources financières à gagner en oubliant la nation et l'esprit d'équipe.
Alain-Claude Billy Binzé, ministre des Sports du Gabon, au micro d'Ismaël Obiangze, notre correspondant à Libreville.
Le Mali s'est qualifié pour le dernier tour des éliminatoires de la CAN des Espoirs.
Oui, les Aiglons maliens ont battu l'Éthiopie sur le score de 4 buts à 0. À l'aller, les deux équipes avaient fait un match nul d'un but partout. Au troisième et dernier tour, le Mali affrontera la République démocratique du Congo. Dans les autres oppositions de ce dernier acte, on aura des chocs comme Côte d'Ivoire-Guinée, Ghana-Algérie et Cameroun-Tunisie. À suivre aussi Zambie-Congo et Soudan-Nigeria. Les sept vainqueurs se qualifieront pour la CAN des moins de 23 ans qui aura lieu en Égypte en novembre prochain. Les pharaons espoirs sont d'office qualifiés en tant que hôtes de la compétition. Autre enjeu de cette CAN des espoirs, les trois premiers se qualifieront pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
En NBA, Miami retire le maillot de Chris Bosh.
Oui, Miami a célébré la carrière de Chris Bosh, ancien coéquipier de LeBron James et Dwayne Wade. lors des sacres de 2012 et 2013 en retirant son maillot. L'honneur suprême pour un joueur NBA, ce n'est pas juste une superstar, c'est surtout un incroyable être humain. Chris Bosh est à jamais un joueur du Heat, a déclaré Pat Riley, le président de la franchise floridienne, en ouverture d'une cérémonie organisée à la mi-temps du match perdu par le Heat face à Orlando, 104-99.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahman Diaye et John Lydon toujours en votre compagnie. À présent, on commence par les dossiers du jour.
Le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga est en visite aux États-Unis. À New York, il va discuter du renouvellement de la mission des Nations Unies dans son pays. Et ici à Washington, il évoquera avec les autorités américaines de la coopération entre les deux pays. Modibo Dembélé lui a demandé ce que le gouvernement malien faisait pour combattre le terrorisme et mettre fin aux violences intercommunautaires dans le centre du pays.
Ma visite aux États-Unis a pour objet de rencontrer les autorités américaines, en particulier celles qui interviennent dans les questions de politique étrangère et de sécurité, pour examiner avec elles, d'une part, le renforcement de nos relations bilatérales dans le domaine de la sécurité et des investissements, et d'autre part, pour échanger sur la question relative à la poursuite et au maintien de l'AMINUSMA dans notre pays, et que nous avons besoin de plus de présence américaine chez nous, à la fois dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine des investissements, où nous voulons attirer des entreprises américaines, notamment dans les secteurs de l'énergie, des ressources minières. Le maintien de l'AMINUSMA est important dans la mesure où toute remise en cause de sa présence pourrait remettre en cause des acquis qui restent encore fragiles dans le domaine de la paix et de la sécurité.
Au Gossago, plus de 150 morts, plus de 70 blessés. Monsieur le Premier ministre, comment réagissez-vous face à cette énième attaque contre de paisibles citoyens?
Face à cette attaque, je suis horrifié par ces massacres dont personne ne pensait qu'ils pouvaient se produire chez nous par la télévision. Nous pensions que c'était uniquement l'apanage de plus barbares. C'est une barbarie inqualifiable. C'est pourquoi le président de la République a instruit au gouvernement de prendre les mesures qui ont déjà été la dissolution de l'association d'Anna Massagou, qui a été créée pour, entre autres, la promotion de la culture d'Ogon s'est petit à petit écarté de cette vocation dans la mesure où quelques jours avant ce massacre, elle avait annoncé par voie de communiqué qu'elle organiserait des patrouilles pour sécuriser les populations. Il appartiendra aux enquêtes de dire qui est responsable.
De plus en plus, beaucoup de voix s'élèvent au Mali pour demander à ce que les officiers supérieurs militaires soient envoyés sur le front de la guerre et non dans les ambassades et les consulats. Comment réagissez-vous face à ces allégations?
Bon, l'un n'empêche pas l'autre, quoi. Nous allons relever le niveau du commandement un peu partout. Toutes les armées conventionnelles ont beaucoup de difficultés face au type de situation auxquelles nous sommes confrontés. C'est une confrontation asymétrique contre des adversaires aux mille visages ou sans visage du tout. Une des stratégies des groupes terroristes, c'est d'exacerber les conflits entre les communautés, de manière à détruire le tissu social, et à discréditer la puissance publique, faire en sorte qu'il n'y ait plus de pouvoir autre que le leur. Nous avons entrepris d'organiser, à l'initiative du président de la République, une série de rencontres depuis les villages pour monter jusqu'au niveau de la région afin d'aboutir à un forum sur la paix et sur la réconciliation dans ces zones.
C'était le premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga de passage à Washington.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Également en visite ici aux États-Unis, Martin Fayulu, qui a réagi aux sanctions américaines à l'endroit des dirigeants de la CENI, de la RDC. Il évoque aussi un possible dialogue, mais continue à exiger la vérité des urnes. Eddie Sango l'a reçu dans nos studios ici à Washington, suivant l'interview avec Martin Fayulu.
Quand les États-Unis avaient pris des sanctions contre certaines personnalités, sanctions limitées au visa seulement, nous avons dit non, il faut aller plus loin. Sanctions au niveau du Trésor. Et nous sommes d'accord, et cela prouve à suffisance que le processus a connu beaucoup d'irrégularités. Cela prouve à suffisance que les résultats qu'ils ont communiqués, ce sont des résultats fabriqués, et nous voulons qu'ils aillent plus loin. Punir, sanctionner aussi ceux qui ont bénéficié de ces irrégularités.
Vous avez bénéficié de l'appui des autres leaders de la coalition Lamuka, et certains pensent que ce sont des béquilles qu'on peut vous arracher à tout moment.
Lamuka, c'est un esprit, c'est le peuple. Les leaders, nous sommes là parce que la volonté du peuple. Et donc, nous continuons avec cet esprit Lamuka. Nous avons réaffirmé tous cette volonté de vivre ensemble, de demeurer ensemble et d'avoir notre unité. Et je continuerai à être avec mes amis pour aller de l'avant.
Vous avez récemment évoqué la question du dialogue. En même temps, vous rejetez la main tendue de M. Félix Tshisekedi.
La vérité des urnes passe par deux étapes. Récompter les voix, bureau de vote par bureau de vote, c'est ce que nous avons réclamé, c'est ce que nous avons dit à la Cour constitutionnelle de faire. La Cour n'a pas fait ça. La deuxième façon d'avoir la vérité des urnes, c'est de refaire les élections comme Juan Guaido est en train de demander au Venezuela. Et c'est là, nous disons, il faut discuter pour aller dans ce sens-là.
Vous avez entamé votre tournée par, je crois, la Belgique. Vous êtes passé par la France et vous êtes aux États-Unis. Mais tous ces pays ont dit qu'ils soutenaient ouvertement le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous attendez d'eux?
Ils n'ont pas dit qu'ils soutenaient ouvertement. Personne n'a félicité ouvertement. Ils ont pris acte. Quand le ministre français des Affaires étrangères dit que ce qui s'est passé au Congo, c'est un compromis à l'africaine. Quand le président français Emmanuel Macron demande à M. Félix Tshisekedi de s'émanciper de M. Kabila, trouvez-vous pas ça insultant? Ne pensez pas et vous ne comprenez pas par cette phrase que « Monsieur, vous avez été mis là par M. Kabila, nommé par M. Kabila, est-ce qu'il y a moyen que vous vous sépariez de lui? Est-ce qu'il y a moyen de dénoncer l'accord que vous avez signé, l'accord sous sein privé ?» Donc, je ne comprends pas. Non, c'est M. Félix Tshisekedi, là où il est, ne peut pas se sentir à l'aise parce que il est dirigé par M. Kabila, parce que les gens lui demandent de s'émanciper par rapport à Kabila, c'est-à-dire de briser encore l'accord qu'il a signé, comme il s'est retiré de l'accord Lamuka de Genève.
L'opposant congolais Martin Fayulu est interviewé par Eddie Isango.
Bonsoir à tous, Ekiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous à 18h50 en temps universel dans votre émission interactive À votre avis. Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais toujours en liberté conditionnelle, a appelé dans une lettre les Ivoiriens à oublier toute vengeance ou revanche après la crise électorale de 2010-2011 au cours de laquelle 3000 personnes sont décédées. Que pensez-vous de l'appel de Blé Goudé pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Laissez-nous votre numéro de téléphone et vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct à 18h05 au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com.
En France, la mort d'un ex-espion français suscite nombre d'interrogations. Le corps de Daniel Forestier, 57 ans, a été retrouvé le 21 mars sur un parking, le corps criblé de balles. Il avait été inculpé en septembre dans un projet d'assassinat du général Ferdinand Mbao, opposant au président congolais Denis Sassou Nguesso, réfugié en France depuis près de 20 ans. Idriss Fall a recueilli la réaction du général Ferdinand Mbao.
C'est la tristesse, parce que je suis un chrétien et la mort d'un être humain me rend triste. Mais en plus, je suis un soldat, je suis un général formé, et j'ai l'esprit chevaleresque. Le corps de mon ennemi ne m'enchante pas, je suis vraiment très attristé pour ces deux raisons.
Mais il avait été inculpé pour une tentative d'assassinat sur votre personne, non?
Oui, oui, en effet. Mais ça, la justice se suit son cours. Jusqu'à ce qu'on ait appris cette nouvelle, la justice suivait son cours. Et j'espère que, oui, la justice va continuer à suivre son cours et elle passera.
Mais ce sera plus difficile parce que, quand même, la personne inculpée a été assassinée. Donc, ça va compliquer l'enquête, non?
Bon, je ne rentre pas trop dans ces détails-là, mais en tout cas, toujours est-il que Ils étaient en bande organisée. Qui parle d'une bande parle plus d'une personne. Et donc, s'il y a une personne qui n'est plus là, ben, le reste de la bande qui avait été inculpée avec lui, probablement, permettra à la justice de suivre son cours. En tout cas, je suis très confiant. Mais je répète, ça, c'est des questions que je ne maîtrise pas. J'ai mes avocats, j'ai un pôle d'avocats. Ça ne nous inquiète pas outre mesure.
Vous êtes réfugié en France depuis près de 20 ans. Vous êtes opposant au président Denis Sassou Nguesso. Pouvez-vous revenir rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où on a tenté de vous assassiner?
Il y a deux faits. Le premier fait, la première tentative d'assassinat à laquelle j'ai échappé, c'était à côté de chez moi. On avait tiré sur moi. J'ai des balles à côté du cœur. Donc ça, c'était la première fois. Là, la justice était aussi en train de suivre son cours. Mais le cas dont nous parlons, c'est donc la deuxième tentative d'assassinat, et cela avant qu'il ne passe à l'acte. Les services de renseignement avaient mis la main sur eux. L'affaire est poursuivie en justice. Donc ça fait deux fois. La première fois, j'ai échappé, j'ai des balles dans le corps. Et la deuxième fois, comme je dis, avant qu'il ne passe à l'acte, ben, ils avaient été arrêtés, notamment celui qui vient de perdre la vie là.
C'était le général Ferdinand Mbaojoin en France.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le dernier magazine de la revue féministe du Vatican est attaché au quotidien officiel du Saint-Siège, doit théoriquement être publié le 1er avril. La fondatrice et toute l'équipe de rédaction de ce mensuel du Vatican consacré aux femmes ont démissionné en bloc. Elles dénoncent une tentative de mainmise masculine sur leur travail. Pour analyse, Eric Manirakiza a joint en Pennsylvanie un professeur des cours sur la relation entre religion à Dickinson College, Jean-Pierre Kéré-Gueye.
Le mensuel féminin était le seul magazine féminin de Rome et faisait partie de l'Osservatore Romano, qui est un organe officiel du Saint-Siège. Et rappelez-vous aussi que ce mensuel avait été créé du temps de Benoît XVI, qui est plutôt dans le sens de conservateur, mais aussi un intellectuel critique, averti. C'est vrai, la revue jouissait d'une certaine liberté. Dans ce sens-là, on peut parler de déception aussi. Donc, de ce côté-là, oui, on peut parler de, enfin, un coup dur dans une certaine mesure, je dirais dans une certaine mesure. Non, parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'on pouvait aussi attendre d'une institution qui est masculine par son essence?
Mais une démission en bloc, c'est quand même inédit.
Oui, oui, mais l'Église est en train de passer une certaine transition. Je parlerai peut-être d'une crise de sens. Et quand il y a une crise, évidemment, il y a une confrontation, il y a plusieurs points de vue. Et dans ce sens-là, oui, il y a un problème. Mais cette crise, mais qui est liée beaucoup plus, me semble-t-il, au renouvellement de l'Église. Bien que certaines des réformes viennent de François Ier, du moins entretenues ou supportées par François Ier, mais il y a aussi au sein de l'Église une certaine ère qui est conservatrice. Et donc face à ça, je crois que la crise qui se passe, pour moi, me semble est positive, dans la mesure où elle annonce une certaine transition. Donc oui, il y a des missions en bloc. Mais après, c'est aussi un symbole, c'est aussi un signe. Le fait même de démissionner, ça montre qu'il y a une certaine prise de parole par rapport à l'Église comme institution. Mais ça montre aussi que cette parole des femmes, d'où qu'elles viennent, que ce soit à l'intérieur du Vatican, que ce soit à l'extérieur, peut être aussi entendue. Donc ça signifie la prise de parole a commencé et elle ne peut pas s'arrêter avec certaines positions du Vatican.
Et quel pourrait être l'impact de l'arrêt de cette publication?
Je crois que le vent qui souffle pour le moment au sein de l'Église, les changements qui vont se porter sur avec François Ier, mais aussi avec le peuple de Dieu, qui prend de plus en plus conscience de certaines attitudes de l'Église et surtout du côté masculin de l'Église avec tous les abus qu'il y a. Et je crois que ce vent ne sera pas arrêté. Donc la démission participe à cette révolution. Et alors la parole viendra de n'importe où.
Jean-Pierre Carreguay, professeur à Dickinson College.
Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Joselle Morissin et à Franklin Cedrac pour la mise en onde, à la présentation Abdourahman Diar et John Lindon plutôt.
VOA Afrique.